Vous m'entendez? Ouais, c'est parfait. C'est bon le son, ni trop fort, ni pas assez? Parce que sinon, j'ai la voix qui porte aussi, comme ça, mais ça va être un peu fatigant. Là, c'est mieux comme ça. Voilà, voix que monsieur, il faisait non, 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 non. Donc, on va rester là-dessus et c'est très bien. Parfait. Bonjour tout le monde. On va parler solaire photovoltaïque aujourd'hui. Donc, je vais vous faire à peu près 45 minutes de présentation pour répondre à plein de questions. Mais après, je suis sûr que vous aurez encore des questions parce que c'est toujours ce qui se passe. Et après ça, je ne vous le donne pas au début parce que sinon vous ne m'écoutez pas, mais je vous le donnerai à la fin. Vous aurez le résumé d'à peu près tout ce que je vais vous dire dans ce petit flyer qui est là. Voilà. Donc vous allez voir, le solaire photovoltaïque résidentiel, c'est un sujet qui est vaste et vous allez avoir plein de questions. Et promis, on prendra le temps d'y répondre après. Et même s'il fallait que ça dure plus que les 1h30, je resterai autant qu'il faut dehors pour vous répondre. Donc n'hésitez pas à noter toutes vos interrogations. Ce sera avec plaisir que j'essayerai d'y répondre, car je n'ai pas la science infuse, donc peut-être que vous arriverez à me poser des colles. Alors, comment on va diviser ces 45 grosses minutes? Je vais vous parler un peu de ma structure, l'association ESPUL. Introduction au photovoltaïque résidentiel. On va voir comment évaluer ce potentiel solaire. Peut-être qu'à cette étape, après ce que je vais vous dire, vous allez voir que vous n'avez aucun potentiel solaire, en tout cas, le reste ne me permettrait pas de juger. Et vous allez partir, mais je ne vous le souhaite pas. On va voir quelles sont les façons de s'équiper quand on fait un projet solaire photovoltaïque. On va voir comment on peut valoriser notre production photovoltaïque. On va voir comment on lance notre projet. Il y a un secret là-dessus. On va suivre la réalisation du projet. On va voir comment on exploite une installation, parce que ça, c'est souvent oublié, ce qu'on dit souvent. Le plus gros risque avec le photovoltaïque, c'est de l'oublier. Alors, on a notre installation, elle est là parce qu'on ne voit pas si elle marche. Du coup, est-ce qu'elle marche? Et si elle ne marche pas, elle ne produit rien et vous ne le savez pas. Donc ça, on va parler rapidement après. Puis après, on va prendre vos questions. Voilà. Alors, l'association ESPUL, on a été créé en 91, on est à peu près une trentaine de salariés, et notre but, c'est contribuer à l'événement d'une société sobre et efficace, reposant sur les énergies renouvelables, tout en défendant les valeurs d'équité et d'intérêt général. On n'est pas les seuls à faire ça en France, mais on est peu à le faire, par contre. On est une association qui a une vraie expertise, on est reconnu par les autorités, on fait beaucoup de plaidoyers. On accompagne des collectivités, on accompagne des entreprises, on fait des formations aussi auprès de professionnels, auprès de mairies, auprès de conseillers énergie, on fait de la sensibilisation au grand public, comme je suis en train de faire là. On fait de la recherche et développement aussi, on a des équipes d'informaticiens qui développent des logiciels. On a la chance d'être un acteur assez particulier, même si il faut bien reconnaître que pour 2027, énergie renouvelable et association, on a un petit peu peur quand même, hein. Donc on croise les doigts. Mais voilà, on a la chance de faire plein de choses différentes. Et donc, pour la petite histoire, ESPUL, d'où est-ce qu'on vient? Nos fondateurs, en 92, en fait, leur historique, c'est plutôt que c'était des antinucléaires. Sauf qu'ils en avaient marre d'être contre, de dire juste non, non, non. Ils voulaient montrer une alternative positive. Et à ce moment-là, les panneaux photovoltaïques existaient déjà. Ça coûtait très, très cher. Et surtout, on n'en avait jamais raccordé au réseau en France. Et il nous manquait l'interface entre les panneaux et le réseau, qu'on appelle un onduleur, qui va venir convertir le courant continu des panneaux en courant alternatif sur le réseau. Et donc, nos fondateurs, ils ont fait développer un onduleur, et en 92, ils ont raccordé la première centrale photovoltaïque au réseau, qui s'appelle Phébus 1, qui, pour la petite histoire, était en face, enfin, pas très loin de la centrale Superphénix. Et plot twist, 30 ans après, Phébus 1 produit encore, et Superphénix ne produit plus. Voilà. Donc, bon, ce n'est pas les mêmes quantités d'énergie, on s'entend. Hein. Mais cette centrale, Phébus 1, produit encore 30 ans après. Elle a perdu que 20% de sa performance d'origine. C'est l'histoire du photovoltaïque français. Et ici, sur le toit d'un atelier un peu vieillot, dans l'Ain. Voilà. Et donc, 30 ans après, on existe encore. On fait toutes les activités que je vous ai citées. Et si vous êtes déjà renseigné un petit peu sur le photovoltaïque, vous êtes peut-être tombé sur le site photovoltaïque.info, qui est le site de référence pour les professionnels et aussi pour les particuliers. On a 1 million de visites par an et on essaye d'être le plus exhaustif sur toutes les informations sur le photovoltaïque sur ce site. Voilà pour les grandes lignes pour ESPUL. On fait vraiment plein de choses. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voulais juste qu'on fasse un petit glossaire pour être sûr qu'on parle le même langage, vous et moi. Premièrement, quand je vais vous parler de kilowatts, on parle bien ici de puissance. Une puissance n'est pas une énergie. Quand je vous parle de kilowattheure, là, c'est une énergie. Une puissance, c'est ce qu'appelle votre appareil ou ce que produit votre appareil à un instant T. Par exemple, si je vous dis j'ai un radiateur de 200 watts et je fais tourner ce radiateur pendant 2 heures, la puissance de ce radiateur, c'est 200 watts, il tourne pendant 2 heures, donc il aura consommé 400 watts-heure. Voilà, c'est juste important toujours de bien comprendre la différence entre une puissance et une énergie. On ne parle pas toujours le même langage. Je trouve ça intéressant de le dire. Et dans le photovoltaïque, on rajoute encore une unité. On aime bien s'embêter. On parle de kilowatt-crête. Les kilowatt-crête, c'est la puissance d'une installation photovoltaïque. Pourquoi on parle de kilowatt-crête ? Parce qu'un panneau photovoltaïque, en fonction de la température, de l'orientation, de l'inclinaison, de la technologie, il produira pas la même, il n'aura pas la même puissance en instantané, en fait. Donc, on prend nos panneaux, on les teste dans des conditions standards de laboratoire, et la puissance qui nous sort, c'est la puissance qu'on appelle puissance crête dans ces conditions standards. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails là. Donc, quand on parle de panneaux photovoltaïques, on parle toujours en kilowatt crête. Je vous dis, en ce moment, les panneaux, ils font à peu près 500 watts crête, 1 kilowatt crête étant 1000 watts crête. Si je vous dis que c'est un panneau de 500 watts crête, normalement, dans les conditions standards de test, il produira plus qu'un panneau de 400 watts crête. Voilà. C'est l'unité d'aujourd'hui, sachant que les panneaux d'aujourd'hui font environ entre 400 et 500 watts crête, les panneaux qu'on installe dans le résidentiel. Et pour vous donner quelques ordres de grandeur, 1 kilowatt crête, c'est à peu près 2 à 3 panneaux maintenant, et c'est à peu près 5 mètres carrés. Donc si vous avez, c'est la partie technique, après sera plus sympa, hein. Si vous avez une surface d'à peu près 30 mètres carrés sur votre toiture, vous pouvez mettre environ 15 panneaux, et ça vous fait une puissance de 6 kilowatt crête. Et proche de Lyon, bien orienté et bien incliné, ça veut dire plein sud, 30 degrés, on dit que 1 kW crête produit à peu près 1100 kWh par an. Donc 6 kW crête, 6600 kWh par an. Pour la comparaison, un foyer moyen en France, après vous allez me dire qu'est-ce qu'un foyer moyen, et vous avez raison, c'est à peu près 4500 kWh par an. Donc on imagine qu'avec 30 mètres carrés de panneaux, on produit un peu plus que la consommation moyenne d'un logement. Après, on va voir, c'est pas parce qu'on a 6 kW crête qu'on va plus avoir besoin d'être raccordé au réseau et qu'on n'a plus besoin d'acheter d'énergie. C'est pas aussi simple que ça. Voilà, je voulais juste qu'on soit sur la même longueur d'onde. Autre petit point, on parle souvent des aides d'État. Est-ce qu'il y a des aides au photovoltaïque ? Alors déjà, plot twist, il n'y a pas d'installation à 1 euro. Ça, c'est de l'arnaque. Peut-être que vous êtes comme moi avec des robots, vous appelez tous les jours pour installer du photovoltaïque. C'est un enfer. Il faut juste raccrocher, hein. Ils veulent juste vous arnaquer, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. L'État aide le développement du photovoltaïque via deux choses. L'obligation d'achat. L'obligation d'achat, on va en reparler un petit peu après, c'est un dispositif qui fait que les kilowattheures que vous injectez sur le réseau, donc qui ne sont pas consommés localement, vous avez signé un contrat avec EDF obligation d'achat qui fait que vous leur vendez cette production pendant 20 ans à un tarif fixe. Ça, c'est la première aide. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle la prime à l'autoconsommation, prime à l'investissement. En fonction de la puissance installée, vous avez à la fin de la première année quelques centaines d'euros qui vous sont versés. Ça, c'est les aides actuelles du gouvernement pour les petites puissances. Quand on est sur des plus grosses centrales, c'est plus compliqué, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Alors, première étape, évaluer son potentiel solaire. C'est pour ça que vous êtes là. pardon. Premièrement, et c'est très important, et je le redis, le photovoltaïque n'est pertinent que sur une maison bien isolée. Si votre maison, c'est une passoire thermique, je vous invite à quitter la salle et à aller voir votre espace France Rénov' local. C'est vraiment très important. Nous, Espul, on est inscrit à fond dans le triptyque négawatt. Le triptyque négawatt qui nous dit que la transition, c'est trois étapes. Sobriété, efficacité, renouvelable. On consomme moins d'énergie, on la consomme efficacement. Et l'énergie qui nous reste à consommer, parce qu'on va toujours en consommer de l'énergie, ce sera fait à partir de renouvelables. C'est vraiment le nerf de la guerre pour la transition, c'est la sobriété. Hein. Il ne faut pas l'oublier, vraiment. Et moi, mon domaine, c'est le photovoltaïque. Hein. Mais je maintiens que la première chose à faire, c'est l'isolation. Vraiment. Typiquement, à mon stand tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est venu me voir, qui me parlait de panneaux. Il m'a dit, eh oui, à côté, on est en train de voir parce qu'on est en passoire thermique. Je lui ai dit, hop. Ne perdez pas plus de temps avec moi, vous avez l'ALEC qui est juste là-bas, allez discuter avec eux, et je maintiens vraiment ça. Voilà, donc on va dire que vous avez tous des maisons bien isolées, je vous le souhaite. Comment on évolue le potentiel de sa toiture ? Alors, déjà, il faut savoir que le mieux, c'est plein sud, ça c'est sûr, mais en sud-est et en sud-ouest, vous êtes très bien aussi. Vous pouvez produire beaucoup d'énergie en sud-est et en sud-ouest. Même une installation est-ouest produira plus tôt le matin et plus tard le soir qu'une installation plein sud. Et pour autoconsommer, on va voir tout à l'heure ce que c'est que l'autoconsommation, ça peut être plus pertinent. Donc peut-être que si vous avez une double toiture en est-ouest, vous aurez une installation qui sera plus rentable qu'une installation plein sud. Donc ne pas négliger les installations sud-est, sud-ouest, est, ouest. Selon là où vous êtes, alors il y a des cadastres solaires qui existent, il y en a un sur la métropole de Lyon. Et en plus, là, Espul, on est en train de sortir un nouvel outil. Je vais vous montrer ça, je vais vous en parler rapidement tout à l'heure, je vous donnerai le lien. Vous pouvez mettre votre adresse et si vous cliquez sur votre maison, on vous donnera le potentiel de toutes vos toitures. C'est quelque chose de nouveau qu'on est en train de sortir là. Et ça vous fera un bilan économique pour votre projet aussi. Je vous en parle après. Mais sinon, vous avez des cadastres solaires et pour vous accompagner, parfois les espaces France Rénov' ont la compétence dans le photovoltaïque. Parfois, ils ne l'ont pas. Et sinon, votre collectivité peut vous accompagner dans votre projet aussi. Voilà. Et aussi, bien sûr, attention à l'ombrage. S'il y a un petit peu d'ombrage sur la toiture que vous considérez, ce n'est pas grave. Un petit arbre qui passe un peu une à deux heures par jour, ce n'est vraiment pas un souci. Si votre toiture elle est derrière un énorme marronnier qui cache le soleil, peut-être qu'il faudra réfléchir à autre chose que le photovoltaïque. Mais un petit peu d'ombre, c'est vraiment pas grave. J'en parlais là, en fait, des ombrages. Voilà, donc attention aux ombrages. Autre chose, si vous êtes en zone architecte des bâtiments de France, communément appelé ABF, si certains ont déjà eu à traiter avec eux, vous savez qu'ils peuvent être intraitables, justement. Parfois, il y en a qui sont contre le photovoltaïque, parfois, il y en a qui sont pour. Dans tous les cas, si vous êtes en zone ABF, ce qui veut dire en général à 500 mètres d'un bâtiment qui est classé au patrimoine construit, commencez à parler avec eux tout de suite. Ce qui est important, c'est de négocier avec eux et peut-être que vous trouverez un compromis pour qu'ils vous autorisent à faire votre installation. Peut-être pas, et si ce n'est pas le cas, et vous pouvez donner de l'argent à votre collectif citoyen local pour développer des installations photovoltaïques locales. C'est très intéressant aussi. Il y a différentes façons de s'équiper d'une installation photovoltaïque. Vous allez voir, il y en a notamment trois. La première, c'est ce qu'on appelle communément le kit plug and play. On en entend de plus en plus parler. C'est les kits que vous achetez en magasin de bricolage, que vous branchez sur une petite prise chez vous. C'est pertinent, ça produit de l'énergie. C'est un bon moyen de commencer à s'approprier l'énergie chez soi, le kit plug and play, mais ça a des limites. Déjà, attention à la sécurité. C'est pas des jouets, les kits plug and play. Il y a de la puissance. Si on raccorde trop de panneaux sur une même prise, le risque électrique est réel. Nous, on dit limitation 2 panneaux par prise. Vraiment, maximum. Voilà, à peu près 800 watts crête, c'est ça. Attention au passage des câbles aussi. Si par hasard, vous faites une... Alors, ce n'est pas une tranchée auquel je pensais, mais je comprends que c'est ce que vous pensez que je m'y mets. Si vous faites un trou dans votre mur pour faire passer votre câble et que vous démontez la prise, par exemple, et que vous la remontez après, théoriquement, c'est plus considéré comme un kit plug and play. Et si par hasard, vous avez un sinistre après et que votre assurance s'aperçoit de ça, ils vont vous embêter. Donc voilà, le kit plug and play, il faut qu'il soit en intégrité. Juste, vous le posez, vous le branchez. Et d'ailleurs, il y a des évolutions actuelles de la norme NFC 1500. La NFC 1500, c'est ce qui régit l'électricité dans la maison. Et selon les interprétations, les kits plug and play vont peut-être être interdits dans le futur et peut-être que vous n'aurez plus le droit de brancher un kit sur une prise murale. Il faudra vraiment venir mettre un domino ou un wago, comme on dit maintenant, pour brancher sur une ligne directe. Ça, c'est en train d'être interprété actuellement. Et aussi, si vous faites un kit, il faut le déclarer auprès d'Enedis. Enedis, c'est le gestionnaire de réseau. Il faut que vous disiez, j'ai une unité de production photovoltaïque chez moi, ça s'appelle une CACSI. Si vous ne le faites pas, vous êtes dans l'illégalité. Actuellement, Enedis ne dit rien aux personnes qui ne l'ont pas fait. On n'est pas à l'abri qu'un jour ça arrive. Parce que la règle, elle est claire. Si vous avez un kit, il faut le déclarer. Voilà. Et bien sûr, si vous le mettez sur votre toit, vous jouez avec l'étanchéité. Attention à ça. Voilà. Donc, je ne dis pas que c'est totalement nul, les kits photovoltaïques. Je dis juste qu'il faut les nuancer. Ça ne coûte pas cher et c'est un bon premier pas dans le photovoltaïque. Mais attention, ce n'est pas des jouets. Ensuite, l'auto-installation. Là, vous n'êtes pas sur un kit plug and play, mais vous êtes peut-être quelqu'un de bricoleur, comme je pense qu'il y en a beaucoup à Primevert, et vous vous dites, je vais acheter mes panneaux, mon onduleur moi-même, et je vais le mettre sur le toit de ma maison et le brancher à mon tableau. Vous avez tout à fait raison, et c'est très sympa, mais attention, encore une fois, ce n'est pas un jouet, des risques réels existent, il y a de l'électricité haute puissance. Si vous voulez le faire quand même, suivez bien le guide UTEC15712-1. Ça, c'est le guide de référence que regardera le Consuel. Le Consuel, c'est l'association qui vérifie les installations électriques en France. Eux, ils vont vérifier que votre installation, elle respecte bien ça. Et si elle ne le respecte pas, ils vont vous recaler. Et le Consuel, c'est très important parce que si vous faites une installation, que vous la déclarez à votre assurance et que vous avez un sinistre quelconque, si vous n'avez pas le Consuel, l'assurance, ils vont vous dire « Mais votre installation, elle était vraiment aux normes, rien ne me le prouve. » Et ils vont vous embêter. Voilà, donc si vous faites votre auto-installation, vous, et ça peut être tentant, parce que ça coûte beaucoup moins cher que passer par un professionnel, je l'entends, mais c'est pas si facile, c'est de l'électricité et de l'étanchéité. Il faut faire attention à ça. Et pareil, demande de raccordement auprès d'Enedis pour signifier votre installation, Consuel, je viens de vous en parler, et autorisation d'urbanisme à effectuer auprès de la mairie aussi, si l'installation est installée à plus d'1,80 m du sol ou fait plus de 3 kW crête. 3 kW crête qui fait 6 à 8 panneaux avec les panneaux d'aujourd'hui. Et enfin, l'installation réalisée par un professionnel, ce qui se fait majoritairement. Alors évidemment, ça coûte un peu plus cher que quand on le fait soi-même. Hein. Rien n'est gratuit dans ce bas monde, malheureusement. L'intérêt, c'est que mine de rien, le professionnel, il est censé être qualifié. Donc il y a plusieurs qualifications, Qualibat, Qualifelec, Qualitener. Donc il est, pour être qualifié, il faut qu'il ait fait des formations, il faut qu'il ait le matériel adapté. Donc on peut oser imaginer qu'il sait ce qu'il fait. Pardon. Ensuite, si vous voulez bénéficier de l'obligation d'achat, donc du dispositif du gouvernement qui vous permet de vendre vos kilowattheures, il faut obligatoirement que l'installation soit réalisée par un professionnel. Il y a certaines assurances habitation qui peuvent exiger ça aussi. Et bien sûr, le professionnel, il est assuré. Vous avez, comme dans tout travaux du bâtiment, l'assurance décennale qui dit que pendant 10 ans, il engage son assurance si vous avez des soucis, notamment sur l'étanchéité de la maison. Voilà pour les trois types d'installations. Alors maintenant, on va parler un peu de comment on valorise notre production. Et avant ça, on va parler autoconsommation. Bah, je suis sûr que vous avez entendu parler photovoltaïque, autoconsommation, autoconsommer vos kilowattheures. Mais qu'est-ce que c'est que l'autoconsommation, justement ? Je veux qu'on soit raccord là-dessus. Alors, ça, c'est un exemple que j'ai fait à la va-vite d'une courbe de charge de consommation d'une maison. Imaginons le matin, vous vous levez, vous faites votre café, les plaques électriques, etc. La journée, il fait beau, vous allez faire une balade. Et le soir, vous rentrez, vous allumez vos appareils. Courbe de consommation normale. Là, en rouge, vous avez le talon de consommation. Ça veut dire que votre maison, vous consommez jamais moins que ça. Là, c'est la puissance. Hein, et là, le temps, on considère une journée. L'autoconsommation, qu'est-ce que c'est ? En fait, ça va être le croisement entre votre consommation et la production photovoltaïque. Et la production photovoltaïque que je vais vous montrer là, on va considérer une journée parfaite sans nuages. Et bah, votre installation photovoltaïque, elle fait une cloche. Là, c'est la nuit, elle ne produit pas. Le soleil commence à se lever, on produit, de plus en plus, jusqu'à midi, 14, 15 heures. Et après, vers 16, 17 heures, selon si on est en hiver ou l'été, hein, évidemment, plus 17, 18 ou 21, au bout d'un moment, il fait nuit, l'installation ne produit plus. Donc là-dessus, l'autoconsommation, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment quand la production vient matcher la consommation. En fait, on dit les électrons, ils sont flemmards. Ils vont toujours au plus court. Ça veut dire que quand votre installation produit et que vous consommez de l'électricité en même temps, les électrons, au lieu d'aller dans le réseau électrique, eh ben, ils vont venir sur votre consommation. Et en passant de vos panneaux à votre consommation, type machine à laver, le linge ou la vaisselle, eh ben, les électrons, ne seront pas passés par votre compteur électrique, et donc vous allez réduire votre facture d'électricité en autoconsommant. En fait, votre fournisseur d'électricité ne verra pas que vous avez consommé ces kilowattheures puisqu'ils ne seront pas passés par votre compteur de consommation. Donc, un kilowattheure autoconsommé vous fait économiser, même pas entre guillemets, en fait, vous fait économiser le prix auquel vous auriez acheté ce kilowattheure à votre fournisseur d'énergie. Ça, c'est l'autoconsommation. Et c'est très important de le comprendre parce qu'il y a certains professionnels un peu malveillants, en fait, ce n'est pas des professionnels, c'est des éco-délinquants, qui peuvent dire l'inverse et qui peuvent mélanger l'autoconsommation avec l'autoproduction. L'autoproduction, pardon, c'est la part, c'est vraiment l'énergie déduite de la facture d'électricité. J'ai un petit schéma à côté. L'autoproduction, c'est le rapport entre l'énergie photovoltaïque utilisée et l'énergie totale consommée. En gros, c'est la part d'énergie photovoltaïque utilisée par rapport à votre consommation totale. Par exemple, je peux vous dire que vous avez un taux d'autoconsommation de 90%. Ça veut dire que vous autoconsommez 90% de l'énergie qui est produite par vos panneaux. Mais peut-être qu'à côté, votre bâtiment il consomme énormément d'énergie. Et ces 90% autoconsommés, ça ne représente que 2 à 3% de votre facture d'électricité globale, en fait. Donc là, vous aurez un taux d'autoconsommation de 90%, mais vous n'aurez réduit votre facture que de 2 à 3%. Donc il faut vraiment faire attention à cette distinction entre autoconsommation et autoproduction. Ce n'est pas parce que vous autoconsommez 60% que vous allez réduire votre facture de 60%. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir là-dessus. Ce n'est pas si simple. Maintenant qu'on est raccord sur qu'est-ce que l'autoconsommation, on va voir quelles sont les façons de valoriser notre production photovoltaïque. Il y a différents modèles. Premièrement, dans le cadre de l'obligation d'achat, donc quand vous signez un contrat avec EDFOA, et on va voir après en dehors. La première chose, c'est la vente de la totalité de la production. Là, c'est très simple. Tous les kilowattheures qui sont produits sont vendus à EDFOA. Et ça, c'est avantageux parce que c'est très simple de savoir combien on va gagner. Ensuite, il y a l'autoconsommation avec vente du surplus. Donc, on autoconsomme, on réduit notre facture et notre surplus qui est injecté sur le réseau, on le vend à EDFOA. Je vais rentrer un peu plus en détail après sur chaque chose. Et hors obligation d'achat, il y a la batterie virtuelle, on va en parler, la vente de surplus hors OA et l'autoconsommation totale. Alors, la vente de la totalité de la production, c'est vraiment très simple. Alors, ça se fait de moins en moins maintenant, mais c'est simple. Vous avez deux compteurs, un pour votre consommation, donc le même pour votre maison, et à côté, vous faites votre installation photovoltaïque, elle a un compteur dédié, tous les kilowattheures qui sont produits sont injectés sur le réseau et sont rémunérés à X centimes par EDFOA. Donc, l'avantage de ça, c'est que c'est une rentabilité fixe et qui est facilement calculable parce qu'on prédit assez bien la production d'une installation photovoltaïque dans le temps. Et alors maintenant, c'est réservé aux installations de plus de 9 kW crête. Donc, 9 kW crête, 1 kW crête égale 5 mètres carrés, pardon, donc au moins 45 mètres carrés. Dans le cadre de l'obligation d'achat, et c'est ça qui est le plus utilisé maintenant, on a aussi l'autoconsommation avec vente du surplus à EDF, obligation d'achat. Alors ici, vous n'avez qu'un seul compteur et les panneaux sont raccordés après le compteur. Vous voyez, par exemple, si je fais le petit chemin des électrons, là, vos panneaux ils produisent, vous avez la lumière qui est allumée là, les électrons ils passent dans l'onduleur qui convertit l'électricité en courant alternatif et ils vont à la lumière ou à la machine à laver et ils ne sont pas passés dans le compteur. Donc vous avez réduit votre facture d'électricité puisque vous n'avez pas acheté ces électrons à votre fournisseur. Et donc là, on a deux façons de gagner de l'argent en autoconsommation avec vente du surplus. Premièrement, les économies sur la facture que je viens de vous présenter. Et ensuite, quand vous produisez plus que ce que vous consommez, les électrons ne peuvent pas aller là, il n'y a pas de consommation. Donc ils passent par le compteur, ils vont sur le réseau. Donc le compteur il comptabilise combien d'électrons vous avez eu en surplus, combien vous avez injecté sur le réseau. Et là, vous avez signé un tarif avec EDFOA. Et pour chaque kilowattheure, ils vous paieront ce qui a été convenu. Et alors là, la rentabilité dépend beaucoup du taux d'autoconsommation et de l'augmentation annuelle du prix de l'électricité. Pourquoi ça dépend du taux d'autoconsommation ? Parce qu'un kilowattheure autoconsommé, vous le valorisez au prix où vous l'achetez actuellement. Et en ce moment, la moyenne, le tarif réglementé, c'est à peu près, on va dire, 20 centimes. C'est pas exactement ça, mais c'est dans ces eaux-là. Ça veut dire qu'un kilowattheure autoconsommé, il vous fait économiser 20 centimes. Alors qu'un kilowattheure de surplus, là, selon la taille de l'installation, c'est à peu près 4 centimes. Donc, chaque kilowattheure autoconsommé vous rapporte plus d'argent que les kilowattheures de surplus. Donc du coup, plus vous allez autoconsommer et plus votre installation va être rentable parce que les kilowattheures produits vous rapporteront plus d'argent. Donc la rentabilité de ce type d'installation, ça dépend vraiment de vos habitudes de consommation et de comment vous allez réussir à matcher avec la production. Hors obligation d'achat, on a la batterie virtuelle. Ceux qui sont déjà un petit peu renseignés sur le photovoltaïque, vous avez dû en entendre parler, on en entend beaucoup parler en ce moment. C'est des offres privées qui, en gros, disent... Alors déjà, vous devez changer de fournisseur d'électricité, vous devez être chez le fournisseur de batterie virtuelle. Et ce qu'ils vous disent, fournisseurs, c'est que les kilowattheures de surplus, donc ceux que vous n'avez pas autoconsommés, qui vont sur le réseau, ils vont être stockés, et je mets bien des guillemets, parce que tout ça est très administratif, et ils vont être stockés virtuellement. Et ça veut dire que vous injectez, par exemple, 10 kilowattheures sur le réseau, et quand vous consommez après et que vous n'avez pas de production ici... On va dire que ces kilowattheures sont déstockés de votre batterie virtuelle et vont être réduits de votre facture d'électricité. Avec le petit twist, c'est qu'ils sont réduits de votre facture d'électricité, mais que vous payez quand même les frais d'utilisation du réseau, qui sont de quelques centimes, plus certaines taxes, qui fait que votre kilowattheure il est déstocké, mais il vous coûte quand même 9 centimes. Donc il n'est pas gratuit. Et en plus de ça, il y a souvent des frais de dossier sur ces offres, qui sont de quelques centaines d'euros. Il y a un abonnement mensuel, et parfois la batterie a une... capacité maximum, et du coup, les kilowattheures en plus de cette capacité sont perdus. Voilà, donc pour ceux qui se renseignent sur le photovoltaïque, on parle de plus en plus de la batterie virtuelle. Dans certains cas, ça peut paraître rentable, je l'entends. Attention, c'est des offres qui sont difficilement lisibles, et surtout, c'est proposé par des acteurs privés. Rien ne nous dit que dans 5 ans, ils seront encore là. Et on a un exemple avec une entreprise qui est en train de... qui a été interdite de fourniture par la DGEC il n'y a pas longtemps, parce qu'ils faisaient un peu... ils n'étaient pas très honnêtes avec tout ça, ils ne payaient pas vraiment leurs clients. Donc voilà, attention à la batterie virtuelle, ça peut paraître intéressant, mais c'est des boîtes privées. Voilà, et là ici aussi, la rentabilité dépend du taux d'autoconsommation et des conditions de l'offre, de l'abonnement que vous payez tous les mois pour avoir cette batterie virtuelle. Et aussi, petit twist important, comme je vous ai dit, vous êtes obligé de changer de fournisseur pour utiliser la batterie virtuelle, et peut-être que ce fournisseur il va vous faire payer votre kilowattheure plus cher que votre fournisseur actuel. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Ils ne sont pas toujours ajustés sur le TRV, voire moins, les fournisseurs de batteries virtuelles. Il existe aussi des offres d'autoconsommation avec vente du surplus hors obligation d'achat. Alors ça, la difficulté, c'est que le prix du surplus dans les offres qui existent actuellement change tous les mois. Donc vous n'avez absolument aucune visibilité sur ce que vous allez gagner. Et je ne vais pas rentrer dans les considérations techniques, mais en gros, l'été, le prix du surplus, il est vraiment très faible. L'été dernier, c'était moins de 1 centime. En fait, c'est basé sur l'équilibre du réseau, c'est un peu compliqué, et on n'a pas de prédiction là-dessus. Typiquement, en 2022, il y avait une offre d'une boîte privée qui proposait d'acheter le surplus à 35 centimes, quand l'obligation d'achat faite avec le gouvernement était à peu près à 15 centimes à l'époque. Donc là, tout le monde s'est dit, oh bah génial, je vais aller vers cette offre privée à 35 centimes. Donc ça, c'était il y a 2 ans, et en juin dernier, ils étaient à moins de 1 centime. C'est les gens qui ont signé à 35 centimes, quand le prix évolue tous les mois. Ok, pendant un mois, ils ont vendu à 35 centimes, mais en juin dernier, ils étaient à moins d'un centime, et là, actuellement, ils devaient être à 2 ou 3 aussi. Voilà, on n'a pas de prédictabilité sur ces offres, c'est le problème. Et pareil, il y a des frais de dossier et des frais d'abonnement. Par contre, en vente de surplus hors roi, vous n'êtes pas obligé de changer de fournisseur. C'est la petite différence avec la batterie virtuelle. Et enfin, vous avez l'autoconsommation totale. Là, juste vous décidez d'autoconsommer et vous faites ce qu'on appelle du bridage dynamique sur l'onduleur. Ça veut dire que vous configurez votre onduleur pour ne jamais injecter de surplus sur le réseau. Ça peut se faire. Moi, je trouve ça un peu dommage parce qu'on se dit qu'on pourrait produire de l'énergie, mais qu'on choisit de ne pas la produire. Donc à ce compte-là, autant être en obligation d'achat, injecter les kilowattheures sur le réseau. N'oublions pas que la transition énergétique, c'est un acte collectif. C'est quand même sympa de pouvoir partager avec ses voisins plutôt que vouloir tout garder pour soi. Voilà, vous ne valorisez pas le surplus. Installation d'un système de batterie. On en entend de plus en plus parler. Alors, ce n'est pas une évidence. Il y a vraiment 2 choses à dire sur la batterie. Déjà, c'est un impact environnemental, une batterie. Il y a du lithium, il y a des métaux rares, il y a des saloperies, il faut le dire. Nous, à Espul, on est plutôt tendance à voir, voilà, comme je viens de vous le dire, la transition, c'est un acte collectif. Et avoir une batterie individuelle, bah, justement, c'est un peu plus individualiste. Donc, on pense que pour l'équilibre du réseau, il va falloir des grandes batteries à l'échelle du réseau, ça c'est sûr. Mais à l'échelle individuelle, utiliser son petit bout de lithium et ses petits métaux rares chez soi, c'est à réfléchir. Alors là, ces dernières années, le coût des batteries ont beaucoup évolué, ils ont bien diminué. Donc dans certains cas, il est vrai que la batterie peut paraître un peu plus rentable. Ce n'est pas non plus miraculeux, vraiment pas. Ça dépend de beaucoup de choses. Il faut faire des études. Ça peut être un peu plus rentable d'avoir une batterie, mais ce n'est vraiment pas un miracle. Et aussi, attention, ça n'assure pas obligatoirement l'autonomie d'une batterie. Vous pouvez avoir une batterie, alors les panneaux solaires de base aussi, si vous n'avez pas une option qui peut coûter un peu cher, vous n'êtes pas autonome parce que vous avez des panneaux photovoltaïques. Hein. Si le réseau y tombe, les panneaux, on appelle ça la protection de découplage, ils découplent et vous n'êtes plus alimenté. C'est notamment pour protéger les techniciens Enedis qui viennent réparer le réseau. Vous pouvez être autonome, c'est ce qu'on appelle la fonction « backup », mais ça coûte quelques milliers d'euros. Et nous, on a tendance à dire qu'en France, on a la chance d'avoir un réseau électrique qui marche bien. Pourquoi vouloir être autonome? C'est marrant, je dis ça avec les inondations. Là, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'électricité actuellement. Mais ça reste des cas rares. Et en France, on a la chance d'avoir un bon réseau. Pourquoi vouloir cette autonomie pour peut-être 1% du temps par an? Alors qu'encore une fois, la transition, c'est un acte collectif. Et nous, on trouve ça pertinent de partager ces kilowattheures. Après, si c'est un critère très, très important pour vous d'être autonome, vous pouvez installer une batterie, installer ce qu'on appelle la fonction « backup ». Votre installateur il sera ravi de vous prendre 3 000 euros de plus et vous pourrez être autonome. Alors, lancement du projet. Comment on lance un projet photovoltaïque? La première chose, la plus importante, et je pense que vous faites ça si vous êtes là, c'est prendre son temps. Vraiment. Ne rien signer, comparer les offres, les démarcheurs, merci, au revoir. Peut-être que comme moi, vous vous faites appeler par les robots 3 fois par jour. Moi, c'est dans le cadre de mon métier, mais quand même. C'était plus sympa avant quand c'était des humains. Parce que moi, dès qu'ils m'appelaient, je leur disais « Ah oui, le photovoltaïque, j'y connais rien. Dites-moi tout. » Et j'en ai quand même une personne un jour qui m'a sorti « Ah mais vous ne connaissez pas la différence, maintenant, c'est plus les panneaux photovoltaïques, c'est les panneaux solaires. » Elle m'a dit « Ces nouveaux panneaux, ils produisent avec l'énergie de la Lune. » Alors je vous promets que j'étais vraiment au fond de ma chaise. Je vous le dis, les panneaux photovoltaïques ne produisent pas avec l'énergie de la Lune. Et tous les démarcheurs, dès qu'on vous appelle, c'est de l'arnaque. Les artisans compétents, en général, par le bouche à oreille, ils ont un carnet de commandes bien rempli. Donc c'est vraiment ça, les premières étapes de son projet, on prend son temps, en cas de démarchage, on remercie poliment le commercial et on contacte un autre artisan. Ce qui peut être intéressant, c'est de demander des retours d'expérience à ses voisins ou à ses connaissances. Ah bah tiens, toi tu as une installation, est-ce que tu es satisfait de ton installateur? Vous pouvez demander à votre espace France Rénov local aussi, ils ne sont pas toujours financés pour le photovoltaïque, mais peut-être qu'ils ont des bonnes connaissances quand même. Et nous, on conseille toujours de réaliser 2 à 3 devis pour pouvoir comparer. Voilà. Alors, comment lire un devis? Déjà, il faut qu'on soit sûr que la puissance crête est bien indiquée. Donc, la puissance crête, je vous ai dit, c'est une unité qui est utilisée dans le photovoltaïque pour pouvoir comparer les installations entre elles. Un panneau fait environ 400 à 500 watts crête actuellement. Et c'est mieux aussi si le productible est inscrit. Le productible, ça veut dire quelle va être la production annuelle de l'installation. Aux alentours de Lyon, on est entre 1100 et 1200 kWh par kilowatt crête par an. C'est mieux quand le matériel utilisé est détaillé. Par exemple, au lieu de vous dire « Ah bah tiens, on va faire une installation photovoltaïque de 3 kg », on dit « On va poser 8 modules de la marque tatata de 400 watts et un onduleur de telle marque, de telle puissance. » Autre chose très importante, on veut que notre installateur il nous ait transmis ses assurances décennales et responsabilités civiles. Si l'installateur ne vous a pas fourni sa décennale, vous ne signez rien tant que vous n'avez pas la preuve de son assurance décennale. Très très importante. Pareil pour la qualification professionnelle. Votre professionnel, il vous dit « Oui, je suis qualifié Califélec ». Vous dites « Très bien, monsieur ou madame, donnez-moi le numéro de qualification, je vais vérifier sur le site de Califélec ». Peut-être, enfin, on a quand même un vrai problème dans le milieu de l'énergie, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes, pas une majorité, très loin de là, heureusement, mais qui ne sont pas très honnêtes. Donc là, je vous donne les tips pour réussir à débusquer ces personnes qui ne sont pas honnêtes et qui veulent vous faire payer trois fois le prix d'une installation normale. Et on va voir les prix juste après. Et aussi, très important dans un devis, s'assurer que la réalisation des démarches administratives est précisée. On va voir les démarches administratives juste après. Normalement, si vous suivez bien tout ça, je ne suis pas très inquiet pour vous. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, les installations à 1 euro n'existent pas. Pareil, si un commercial vient vous voir... Alors déjà, un commercial vient vous voir, vous lui fermez la porte au nez. Mais si en plus, il vous dit installation à 1 euro, vous pouvez lui crier arnaqueur en partant. C'est vraiment n'importe quoi. Alors, parfois... Il y a des entreprises qui peuvent être honnêtes, qui peuvent vous proposer des crédits associés. Nous, on conseille toujours quand même de vérifier avec sa banque. Il n'y a pas de crédit dédié au photovoltaïque. Parfois, il y a des banques qui le font passer sur les crédits travaux, mais théoriquement, elles n'ont pas le droit. Donc, en général, c'est plus des crédits à la consommation. Et là, les taux sont très variables. Donc, si vous voulez faire une installation et que vous voulez vous endetter pour ça, vous pouvez. Mais voyez avec votre banque plutôt qu'avec ce qui est proposé par l'installateur. Les prix. Alors les prix, c'est très variable. J'ai regardé un peu les devis il n'y a pas longtemps. J'ai l'impression que la tendance est peut-être à être un petit peu plus bas que ce que je vous présente ici. Ces prix seront aussi dans le petit flyer que je vais vous donner après, donc vous n'êtes pas obligé de les noter. Dans tous les cas, essayez de contacter votre espace France Rénov' qui vous donnera son avis dessus. Voilà, donc une installation de 3 kg, 15 mètres carrés, on pourrait être entre 5 et 6 000 euros à peu près. Si quelqu'un vous propose 10 000 euros pour un 3 kg, merci, au revoir monsieur. Sauf si votre maison est un chantier particulièrement compliqué, hein, où il faut monter un échafaudage ou autre. Mais 10 000 euros pour un 3 kg, c'est vraiment n'importe quoi. Sachant que je vous ai parlé un peu des éco-délinquants tout à l'heure, c'est un vrai souci. Il y a des gens dont je me demande vraiment comment ils font pour dormir le soir. Ils vont voir certaines personnes qui sont un peu crédules. Et le 3 kg, là, je vous dis, à 6 ou 7 500 euros. Ils vont aller voir et disent « Bonjour monsieur ou madame, donnez-moi 30 000 euros et vous ne payerez plus jamais d'électricité. » Ça arrive beaucoup. Et moi, j'ai souvent des gens comme ça qui me contactent. Et ces gens-là, ils ont payé les panneaux, ils ont un crédit à 7% en plus des 30 000 euros et ils voient les panneaux pendant 15 ans comme ça. C'est un peu ennuyeux. Vous êtes venu là, donc je ne suis pas inquiet pour vous. Hein. Mais malheureusement, il y a des gens dont je me demande vraiment comment ils font pour dormir le soir en faisant ça. Et ils vont voir des smicards, tout. Hein. Ils ne vont pas juste prendre aux riches pour donner aux autres riches. C'est n'importe quoi. Donc ça, c'est le prix de l'installation. Et là, vous allez me dire, mais Ulysse, c'est quoi la rentabilité de mon installation du coup ? Eh bien, je ne peux pas vous le dire, parce qu'il dépend beaucoup de votre taux d'autoconsommation. Et je ne peux pas, juste en vous regardant droit dans les yeux, là, vous dire votre taux d'autoconsommation. Donc, si vous avez un installateur compétent, il vous fera une petite étude d'autoconsommation, il vous dira à peu près quelle devrait être votre rentabilité. Mais encore une fois, ça dépendra de vos habitudes, de comment vous calquez votre consommation sur votre production. Et votre rentabilité sera vraiment impactée par ça. Ça dépendra aussi de à combien vous avez signé avec EDFOA pour la valorisation du surplus et de l'évolution du prix d'électricité dans le temps, très important. Parce que là, je vous ai dit, si vous achetez votre kilowattheure à... La table n'est pas solide. Si vous achetez votre kilowattheure à 20 centimes auprès d'EDF, l'électricité, ça augmente un peu tous les ans. Donc peut-être que dans 5 ou 6 ans, vous l'achèterez plus cher. Nous, on a tendance à dire que l'évolution qu'on a constatée dans les dernières années, c'est 3 à 4%. À peu près. Pareil, si vous avez un installateur qui vous dit « Oh bah oui, l'électricité, ça augmente de 8% par an. Merci, monsieur ou madame, au revoir. » Après, j'ai pas de bulle de cristal. Merci, madame. J'ai pas de boule de cristal. Je peux pas savoir exactement dans 3 ou 4 ans comment on aura augmenté le prix de l'électricité. Mais comme j'ai pas de boule de cristal, je regarde dans le passé pour essayer de comprendre. Et dans les dernières années, c'était 3 à 4%. Au niveau des aides du gouvernement, du coup, la prime à l'autoconsommation, si vous faites une installation de 3 kW de crête, donc à peu près 6 panneaux, 15 mètres carrés, c'est 240 euros. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Vous avez raison. C'est toujours ça de prix. Avant, c'était plus élevé. Mais le gouvernement est quand même tendance à refermer les vannes sur les aides au photovoltaïque en ce moment. Et les prix de vente du surplus, ce sera 4 centimes du kilowattheure si vous êtes en autoconsommation, si vous êtes à moins de 9 kW de crête, si vous êtes plus à plus de 9 kW de crête, pardon, ce sera 5,36. Donc en gros, ne faites pas une installation de 8,8 kW de crête, mais faites une installation de 9,1 kW de crête. C'est important. Depuis pas longtemps, il est possible d'être éligible à la TVA à 5,5%. C'est pour les installations de moins de 9 kW de crête. C'est pour des panneaux respectant un seuil maximum de bilan carbone et de teneur en argent, plomb et cadmium. Ça, c'est quelque chose qu'a mis en place le gouvernement pour qu'il n'y ait qu'une marque de panneaux françaises qui soit éligible, pour que ce soit des panneaux français qui soient mis en place. Malheureusement, les Chinois sont très forts et il y a maintenant des panneaux chinois qui sont éligibles quand même. Petit aparté souveraineté industrielle, on a encore une marque de panneaux française qui s'appelle Voltex Sonar. C'est les derniers, c'est des résistants. Ça coûte un peu plus cher, mais ce n'est pas dramatique non plus. Donc vous pouvez toujours demander à votre installateur de faire un devis panneau français et un devis panneau non français. Sachant que, oui, il est vrai, la plupart des panneaux sont faits en Chine, mais les panneaux sur un projet, c'est à peu près 10 à 15% du coût du projet. Donc oui, on a 10 à 15% de notre investissement qui part en Chine. C'est dommage, mais ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas pour ça qu'il faut arrêter le projet. Et vous avez encore cette marque française qui s'appelle Voltex Solar, si vous voulez aller là-dessus. Et aussi pour la TVA à 5,5, il faut ce qu'on appelle un système gestionnaire d'énergie. On attend des clarifications du gouvernement pour bien comprendre ce que c'est. Ce n'est pas encore très clair. Ça pourrait être quelque chose qui redirige votre surplus vers votre chauffe-eau ou vers d'autres équipements, par exemple. Si vous avez des devis, vous pouvez les évaluer sur notre site qui s'appelle Évaluer mon devis, mais je vais vous parler d'autre chose qui est encore mieux qu'on est en train de sortir actuellement. Ça vous donne des petites fourchettes de taux d'autoconsommation, Évaluer mon devis. Ça peut être intéressant, sachant qu'encore une fois, ça dépend de comment vous utilisez l'énergie chez vous. Donc, je peux vous dire qu'en moyenne, on a l'impression que quelqu'un qui a un 6 kg et qui consomme 5000 kWh par an, il devrait autoconsommer 25 à 30% de l'énergie qui est produite. Mais si vous, en fait, vous êtes une boîte de nuit et vous consommez que de l'énergie le soir et jamais dans la journée, vous allez avoir un taux d'autoconsommation beaucoup plus bas que ça. Voilà, c'est très compliqué de prédire le taux d'autoconsommation. Le suivi de la réalisation du projet. Vous avez signé votre devis avec votre installateur, il est compétent, c'est super. Normalement, si vous avez bien choisi un bon installateur, vous n'avez quasiment plus rien à faire. Mais je vais vous expliquer un peu les étapes qui doivent être faites quand même pour que vous puissiez comprendre ce qu'il vous dit. Les démarches. Il y a trois démarches importantes. La déclaration au préalable auprès de la mairie, l'urbanisme. Voilà, vous dites à votre maire, je vais faire une installation. Si vous n'êtes pas en zone ABF, architecte des bâtiments de France, normalement, pas de souci. Deuxième chose, demande de raccordement auprès d'Enedis. Très important, vous avez un appareil de production chez vous, vous le déclarez auprès du gestionnaire du réseau, c'est une obligation. Et après, si vous êtes en obligation d'achat avec EDF OA, vous allez signer votre contrat d'obligation d'achat. À savoir que quand vous faites la demande de raccordement, Enedis envoie les infos directement à EDF OA. Et quand vous ferez la mise en service de l'installation, quand elle sera raccordée, ils vous demanderont de créer votre compte sur Internet. Là, vous allez attendre quelques mois parce qu'ils sont un peu en retard sur les contrats EDF OA. Et au bout de 3 mois, vous pourrez signer votre contrat. Pas d'inquiétude, à partir de la mise en service, tous les kilowattheures injectés sur le réseau sont rémunérés. Donc même si vous n'avez pas signé le contrat, ce que vous injectez sera rémunéré quand même. Attestation consuelle, ça je vous en ai parlé, c'est très important. C'est ce qui atteste que votre installation respecte les normes en vigueur. Alors ça... Vous ne signez pas la fin des travaux de votre installateur s'il ne vous a pas donné l'attestation consuelle. Ceux qui connaissent un peu l'électricité pourront dire oui, mais le consuel, peut-être qu'il ne sera pas passé contrôlé. Le consuel ne passe pas à chaque fois. Il ne peut pas passer tout le temps. En général, il contrôle une installation sur 10 d'un installateur. Donc peut-être que votre installateur, il aura rempli le dossier technique, il l'a envoyé au consuel. Le consuel passe ou ne passe pas, mais dans tous les cas, votre installateur, il vous donnera une attestation de conformité. Très important. Dans le cadre de l'OA, de l'obligation d'achat, il vous donnera aussi une attestation sur l'honneur qui confirme que votre installation respecte bien les conditions de l'obligation d'achat. Ça, pareil, si vous ne l'avez pas donné et que vous voulez faire de l'obligation d'achat, vous ne signez pas la fin de travaux. C'est un grand classique des éco-délinquants, ça. Et la signature du contrat d'achat, je vous l'ai dit, c'est sur le site de DFOA. Il n'est pas signé à la mise en service et tous les kilowattheures sont rémunérés après la mise en service. Alors maintenant, comment on exploite une installation? Je vous l'ai dit, avec le photovoltaïque, le plus grand risque, c'est de l'oublier. Eh ben, vous, en tant que particulier, ce n'est pas très compliqué de bien exploiter une installation. Déjà, on fait bien ces relevés de production. Donc on regarde notre Linky. Si vous appuyez un peu sur Linky, il a un compteur qu'on appelle injection. L'injection, c'est donc les kilowattheures que vous injectez sur le réseau. Donc quand vous avez une installation photovoltaïque, vous vous assurez que vous avez tout le temps de l'injection, ce qui veut dire que vos panneaux y marchent et qu'ils injectent sur le réseau. C'est la première chose. Sur l'onduleur aussi, vous avez souvent des petits écrans qui vous disent la production en direct. Et maintenant, ça se fait de plus en plus. Il y a des applications téléphone où votre onduleur il est connecté à votre téléphone et vous pouvez voir en direct la production de vos panneaux. C'est pas mal aussi. Et l'autre petite chose que vous avez à faire pour votre exploitation, pardon, c'est contrôler visuellement votre installation. Juste regarder, bah tiens, l'onduleur, est-ce qu'il n'y a pas de point chaud ? Les boîtiers de connexion, est-ce qu'il n'y a pas de point chaud ? Et s'il y a quoi que ce soit qui vous paraît anormal, vous coupez et vous appelez votre installateur en lui disant, tiens, viens voir, là, il y a un truc qui ne va pas. Ensuite, comment optimiser son taux d'autoconsommation et donc augmenter sa rentabilité ? Et bah, le plus évident, c'est vraiment le décalage des consommations. En France, on est habitué à consommer la nuit, parce que les heures creuses étaient la nuit, pour consommer l'énergie nucléaire qui était en excès. Peut-être que vous avez entendu parler, maintenant, il y a des heures creuses solaires qui arrivent, entre midi et 14-15 heures, enfin, ça dépend des zones. Et ben nous, c'est exactement ce qu'on veut faire. Quand on a des panneaux photovoltaïques, on veut évidemment consommer quand nos panneaux produisent. Et là, vous allez augmenter votre taux d'autoconsommation et être plus rentable. Vous pouvez donc, dans ce cadre-là, en décalage de consommation, contrôler votre ballon d'eau chaude. Au lieu de lui dire de s'allumer la nuit, vous lui dites de s'allumer la journée. Et en plus de ça, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des box d'autoconsommation, ou parfois on appelle ça des routeurs aussi, qui vont rediriger votre surplus, donc ce qui normalement n'était pas autoconsommé, vont le rediriger sur votre chauffe-eau ou un autre appareil consommateur. Ça peut être intéressant ça aussi, avec la petite alarme, il y a des box d'autoconsommation qui sont vendues aux alentours de 1000 euros, c'est de l'arnaque. 200 euros, c'est déjà pas mal. Voilà. Et alors ça, je ne vais pas pouvoir le faire pour toutes les personnes qui sont là. Justement, c'est le petit outil qu'on vient de mettre en ligne qui va vous permettre de regarder si votre toiture est pertinente et faire un petit bilan économique chez vous. Alors, ce n'est pas dans la petite plaquette qui est là parce que je n'ai pas eu le temps de la mettre à jour. Mais si vous êtes intéressé par votre projet, vous pouvez noter, prendre ça en photo, beta.mon-parcours-solaire.org et vous pourrez faire une petite évaluation de votre maison. En bas à droite, il y a un petit espace commentaire. Voilà, cet outil il est en bêta, c'est nous Espul qui le développons pour permettre à tout le monde d'évaluer son potentiel justement sans rien vendre derrière, parce que des simulateurs photovoltaïques, il y en a beaucoup qui existent par des boîtes qui veulent vous vendre des panneaux. Nous Espul, on n'a rien à vendre, donc n'hésitez pas à l'utiliser et surtout si vous voulez bien nous donner des commentaires si ça vous a paru pertinent, qu'est-ce qui n'allait pas, vous verrez en bas à droite il y a un petit truc de commentaires, je les lirai avec grand plaisir en buvant mon café lundi matin, promis. Et voilà, et ça fait pile 45 minutes. Merci. Pas mal. Donc maintenant, j'ai autant de temps que vous voulez pour les questions. Je crois qu'on a un micro. Ou sinon, si quelqu'un a une question, levez la main et je relaie. Ouais.
J'avais une question concernant l'utilisation d'une voiture électrique comme consommateur
Alors, on me pose la question, une voiture électrique, consommation avec une voiture électrique, donc j'imagine liée avec du photovoltaïque, et ben la voiture électrique, c'est très bien justement pour augmenter son taux d'autoconsommation parce que ça consomme beaucoup pour recharger une voiture électrique. Et maintenant, il y a des bornes de recharge qui peuvent être connectées avec l'onduleur, ce qui fait que justement, je vous parlais de ces box d'autoconsommation qui renvoient le surplus vers les chauffe-eau, et ben vous pouvez charger votre voiture électrique uniquement avec le surplus photovoltaïque. Donc tout à fait, la voiture électrique, c'est un bon moyen d'augmenter son taux d'autoconsommation. D'autres questions ? Ah bah allez-y. Bon allez, on change. Allez-y.
Merci déjà, c'est super
clair sur un sujet pratique. Merci. C'est mon métier, je me suis beaucoup entraîné.
Ah,
on me demande si on n'a pas de Linky, si on a résisté. Je sais, ma mère et feu mon père étaient anti-Linky aussi. Alors déjà, sachez que pour le réseau électrique, le Linky, c'est quand même pas mal. Ça nous permet d'aider. Mais c'est un autre débat qu'on n'est pas là pour résoudre. Si vous avez les compteurs électromécaniques qui tourne, genre les vraiment vieux, là ça marche pas. Enfin, vous pouvez. Enedis, ils vont pas être contents. Par contre, si vous avez ce qu'on appelle les compteurs blancs, normalement ça marche. Voilà. D'autres questions ? Ouais. Alors, ouais. On me demande si on est dans le périmètre des ABF, quelles sont les solutions ? Alors, il y a des tuiles photovoltaïques qui existent, en effet. Il y a une marque qui s'appelle Sunsteel qui fait ça, une autre qui s'appelle Ediliance, je crois. Le problème, c'est que c'est quand même considérablement plus cher que des panneaux normaux. Donc, je ne m'engagerai pas sur la rentabilité d'un projet avec des tuiles photovoltaïques. Après, si l'installation est à moins d'1,80 m et fait moins de 3 kW crête, normalement, les ABF, ils n'ont rien à dire. Ça, c'est la première chose. Après, moi un jour, je me suis baladé dans une ville avec des ABF, justement, parce qu'on parlait de ça. J'étais assez impressionné de à quel point ils disaient bah, ça, on l'a pas autorisé, ça, on l'a pas autorisé, et j'ai pas l'impression qu'il se passe grand chose derrière. Après, moi, j'incite à rien là-dessus, hein, mais je partage mon étonnement. Voilà. L'autre question ? Ouais. Ouais, alors référence de panneaux à conseiller. Alors théoriquement, je suis une association, donc je ne suis pas une association, mais Espul, on est neutre, donc on peut rien dire. J'aurais tendance à dire quand même, si vous voulez soutenir un peu l'industrie française, bah, il reste plus que Voltex Solar qui le fait. C'est toujours au moins faire un devis avec ça. Après, des marques de panneaux, honnêtement, il y en a des centaines. Ce qu'il faut contrôler, c'est vrai, c'est les garanties fonctionnement et garanties de performance. Voilà, j'aurais du mal à m'engager sur des marques, puis il y en a tellement. Moi, j'aurais tendance à dire, on est en France, allons sur Voltex, quoi. Mais les autres, en plus, les Chinois, ça marche beaucoup, ça change beaucoup, c'est compliqué. Voilà. D'autres questions ? Ouais. Ah, alors, on me demande quel est le rendement des panneaux et quelle est la durabilité. Alors, le rendement, honnêtement, je ne trouve pas que ce soit un facteur qui soit... Alors, pourquoi on veut un rendement important avec les panneaux ? C'est parce que plus le rendement est élevé, plus on aura une puissance forte sur une petite surface. Vous voyez, parce que plus ils convertissent d'énergie photovoltaïque, plus on aura moins à mettre de surface pour faire. Donc, le rendement des panneaux actuels, c'est à peu près entre 22 et 25%. Oui, bah voilà, ça bien est. Ça évolue beaucoup. Là, les panneaux commerciaux, ils sont entre 22 et 25. Et la deuxième question, c'était la durabilité. Et bah, très bonne question. Je vous ai parlé de Phébus 1, la première centrale raccordée au réseau en 92, faite par Espul. 30 ans après, elle marche encore. Elle n'a perdu que 20% de sa performance initiale. Donc, les panneaux fonctionnent. Nous, on a tendance à dire qu'ils sont performants pendant au moins 30 ans. Et petit aparté, les panneaux, ça se recycle très bien. Notamment parce que 70% du poids des panneaux, c'est du verre. 15% c'est de l'alu, et après il y a les cellules de silicium photovoltaïque, donc ce qui crée l'effet photovoltaïque. Ce silicium, déjà, il faut savoir qu'à la base c'est du quartz, donc c'est du sable qu'on fait chauffer à très très haute température, et ce silicium ne représente que 2% de la masse du panneau, mais actuellement le silicium, on n'arrive pas à le recycler de qualité photovoltaïque, c'est vrai. C'est 2% de la masse du panneau, tout le reste on recycle bien, et les panneaux, on dit qu'ils ont une durée de vie de 30 à 40 ans. Alors après, la meilleure énergie reste quand même celle qu'on n'utilise pas. Hein. Je trouve que le photovoltaïque est une des meilleures énergies, mais la première chose à faire pour la transition, c'est vraiment la sobriété. Hein. Ça a des impacts quand même, il ne faut pas se voiler la face. Les panneaux, c'est fait dans des usines. Hein. C'est pas du low-tech non plus. Hein. Mais je ne vois pas beaucoup de façons de produire de l'énergie qui est totalement parfaite. Ou alors, si quelqu'un en trouve une demain, il nous sauve en partie tous, et au passage, il devient milliardaire, ce qui n'est peut-être pas une bonne chose d'ailleurs. Mais voilà. D'autres questions ? Ouais, allez, ça fait un moment. Ah bah. Dans le livre que vous avez montré, c'est l'achat des panneaux, l'installation. On me demande les prix que j'ai montrés. En effet, c'est tout inclus. Sachant que de ce que j'ai montré, vraiment, je pense que maintenant, c'est un petit peu plus bas que ça quand même. C'est pour ça que je vous invite à faire plusieurs devis. Et par contre, c'est sûr qu'il ne faut pas que ça dépasse ce que je vous ai montré. Pas obligatoirement, mais vous pouvez le faire. Et c'est vrai que ça peut être pas mal de faire une petite visite tous les ans, mais il ne faut pas que ça coûte trop cher non plus. Quoi. Ouais. Monsieur avait levé la main, ouais.
J'ai 6 panneaux installés par Enedis.
Ouais, alors installé par Enedis, ça m'étonnerait.
EDF,
ouais. EDF, ouais.
Si je veux étendre,
ouais. Alors, très bonne question. Et là, vous soulevez un secret de polychinelle de la filière. Je vous le dis, mais théoriquement, je ne le dis pas trop fort. Ne passez pas par EDF solution solaire. C'est triste à dire, mais ce qu'ils font, ce n'est pas illégal. Mais un 3 kg qui vaut 6 000 euros, ils vont vous le vendre à 18 000. Je suis désolé, hein, c'est terrible. Hein. Ils jouent sur « on est EDF, vous pouvez nous faire confiance ». C'est pas vrai. Et c'est un vrai scandale. Hein. Ils ont un chiffre d'affaires de 250 millions par an. Hein. C'est honteux. Et c'est vraiment une entreprise d'État. Hein. Non, vous pouvez passer par quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. Je suis désolé, vous n'êtes pas seul. Hein. Ils font ça à beaucoup de monde, hein, vraiment. Hein. Et ils sont très forts. Hein. Donc vraiment, les commerciaux, c'est là où je disais les commerciaux, je ne sais pas comment ils dorment la nuit. Hein. Moi, je ne pourrais pas. Mais ils savent ce qu'ils font, ils ont des grosses coms et ils s'en foutent. Donc voilà, franchement, vous n'êtes pas seul là-dedans, vraiment. D'autres questions ? Ouais, monsieur ? On me demande des conseils pour un routeur d'énergie vers chauffe-eau, vers des chauffe-eau. Franchement, non, je sais pas, je m'engagerai pas là-dessus. Je sais qu'il y a quelques marques françaises qui le font, mais j'ai pas suffisamment de recul pour donner mon avis.
D'autres questions ?
Ouais. Là, vous avez parlé de l'habitat individuel, mais pour le collectif, est-ce que vous faites des propositions aussi ou vous apportez des conseils ?
On me demande de l'habitat collectif. Alors, en copropriété, c'est plus compliqué. Les projets sont plus longs parce que tout est plus long dans la copropriété. Mais ça peut se faire tout à fait. Si vous êtes sur la métropole de Lyon, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et si vous êtes en copropriété, on peut brancher les panneaux sur les parties communes et on peut faire quelque chose sur lequel je ne vais pas trop m'étendre là parce qu'on n'a pas le temps, mais on peut faire ce qu'on appelle de l'autoconsommation collective, ce qui veut dire que tous les copropriétaires peuvent profiter de la production et réduire leurs factures avec, et c'est vraiment super pertinent. Donc en copropriété, c'est intéressant quand même. Voilà. D'autres questions ? Ouais ? Ah, on parle des panneaux duo, alors je pense que vous voulez dire hybride, dual sun, donc des panneaux qui produisent de l'électricité et de la chaleur en même temps. Nous, on a tendance à dire c'est un peu plus cher. Les panneaux thermiques, c'est quand même plus compliqué, genre le réseau de fluide, c'est plus galère, ça demande de l'entretien. En été, quand on a trop d'eau chaude, comment on fait ? J'ai pas suffisamment étudié le sujet pour donner un avis définitif, mais je dirais que c'est pas aussi miraculeux que ce qu'on peut penser, parce qu'en été, qu'est-ce qu'on fait de toute cette chaleur thermique ? Et ça risque de nous pousser à réduire la taille de notre installation. Voilà. Mais j'ai pas suffisamment poussé le sujet pour que ce soit tranché.
Alors, je suis installateur, et en fait, j'en ai posé des panneaux comme ça, il n'y a pas de problème de surproduction l'été.
Ok.
Parce que le fait qu'il y ait les cellules devant,
ouais.
Ok.
Eh ben, on me dit, il n'y a peut-être pas tant de problèmes de surchauffe l'été actuellement. Ben, voilà, si on a un retour d'expérience, c'est bien. Voilà. D'autres questions ? C'est peut-être que j'ai été très clair, hein, mais je ne pense pas à ce point-là non plus. Avant de partir, n'oubliez pas de venir prendre votre petite brochure. J'ai passé beaucoup de temps pour la faire, et mes amis de la com aussi. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Elle date de mars 2025. Donc voilà, les prix ont un petit peu évolué, mais toute l'information qui est dedans reste pertinente. Il y a d'autres questions ? Ouais. Voilà, parfait. Et si vous avez d'autres questions, je reste là. Hein.
Merci beaucoup.
Hop. H51, si vous voulez qu'on continue à discuter, je serai en H51 après.